RFI, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition, 20h en temps universel, 21h à Paris.
Mathis Limano.
À la une, nouvelle nomination dans le gouvernement intérimaire en Syrie après les affaires étrangères. On connaît désormais le visage du nouveau ministre de la Défense. Juste après les titres, le portrait de Mouraf Abou Kassra, un homme très proche du nouveau pouvoir dirigé par le HTS. Il en dirige la branche militaire. Au sommaire également, Elon Musk s'immisce beaucoup trop dans les affaires de l'État américain selon des élus démocrates et républicains après qu'il a encouragé Donald Trump à torpiller un texte budgétaire. Et puis en Albanie, TikTok interdit pendant un an dès janvier 2025. On y revient dans ce journal. Le chef de la diplomatie turque était à Damas aujourd'hui. Il a estimé qu'il n'y avait pas de place pour les Kurdes dans la nouvelle organisation politique syrienne. Hakan Fidan a aussi réagi à la critique formulée par Donald Trump, comme quoi la victoire des rebelles syriens et la chute de Bachar el-Assad est une prise de pouvoir inamicale par Ankara. Plutôt une victoire des Syriens qui n'appartient à personne d'autre, a rectifié le chef de la diplomatie turque, tout en appelant les Occidentaux à lever les sanctions visant la Syrie. La Syrie, justement, je vous le disais dans les titres, et cette nouvelle nomination dans le gouvernement intérimaire après le ministre des Affaires étrangères. C'est au tour du ministre de la Défense, un poste clé, d'être nommé. Le choix des autorités s'est porté sur Mouraf Abou Kassra. Abla Jounaïdi, l'homme n'est nul autre que le commandant en chef de la branche militaire du HTS, le groupe à la tête du pays depuis la chute de Bachar el-Assad.
C'est le deuxième poste stratégique à tomber dans l'escarcelle d'HTS après les affaires étrangères. Mouraf Abou Kassra, c'est l'un des principaux chefs de ce qu'on appelle le département des opérations militaires, dominé par Hayat Tahrir al-Sham, HTS. L'homme de 37 ans, qu'on voit peu dans les médias, était à la tête des opérations qui ont mené à la chute du régime d'Al-Assad il y a 2 semaines. Originaire de la ville de Hama, cet ingénieur agricole de formation a fui après 2011 avec sa famille à Idlib. Là-bas, il a combattu l'armée d'Al-Assad sous le nom de guerre Abou Hassan al-Ham. Hamawi, avant d'intégrer le gouvernement du bastion rebelle auprès de son compagnon de route, Abou Mohamed al-Jolani. Sa fidélité récompensée le voilà aujourd'hui à la tête d'un ministère clé. Il sera en charge de l'important dossier de la réforme de l'armée, question hautement sensible pour un pays qui a traversé une décennie de guerre civile. Selon les nouvelles autorités, toutes les factions devraient être fusionnées pour former la nouvelle institution militaire, y compris HTS, reconnaît Mouraf Abou Kassra, y compris les groupes armés kurdes qui, à l'heure où l'on parle, sont toujours engagés dans des combats contre les groupes armés syriens liés à la Turquie dans le nord du pays.
Abla Jounaïdi, vous êtes bien sur RFI, l'actualité qui nous emmène maintenant aux États-Unis. Le pays a échappé de peu au shutdown. Un texte budgétaire a été voté in extremis et promulgué par Joe Biden, évitant ainsi une paralysie des services fédéraux. Paralysie presque souhaitée par Donald Trump, qui avait ordonné aux élus républicains au Congrès de torpiller un précédent texte bipartisan. Mais si le président élu est ainsi intervenu, c'est parce qu'Elon Musk a vivement critiqué l'accord, une influence qui a gaze tant chez les démocrates que chez les républicains à un mois de l'investiture de Donald Trump, Loubna Naki depuis New York.
Le président Musk, le second in chief, l'éminence grise de Trump ou encore le double de Trump, c'est ainsi que certains à Washington et sur les plateaux télé surnomment désormais Elon Musk. Le patron de Tesla, on le sait, a été choisi par Donald Trump pour diriger le nouveau département de l'efficacité gouvernementale, mais en réalité, il occupe également une fonction de conseiller auprès du président élu. Elon Musk est quasiment présent à toutes les réunions, tous les dîners, et mercredi, il a suffi que l'homme d'affaires publie une dizaine de tweets critiquant le projet de budget négocié par les républicains et les démocrates pour que Donald Trump ordonne aux élus de son parti de rejeter le texte parlant d'un projet ridicule. Un avant-goût de ce que pourrait être la présidence Trump avec un Elon Musk comme conseiller. Le patron de Tesla est l'homme le plus riche du monde et compte plus de 208 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. Une influence vivement critiquée par les élus démocrates cette semaine et même certains républicains qui ont osé défier les directives de Donald Trump ont déclaré, je cite, qu'il travaillait pour le peuple américain et non pour Elon Musk. Loubna Naki, New York, RFI.
RFI à New York, il est 15h passé de 4 minutes, 21h passé de 4 minutes à Paris, en France. L'annonce d'un gouvernement attendra. Des signaux convergeaient pourtant vers des nominations dans la soirée après le retour d'Emmanuel Macron à Paris. Le président s'est entretenu à 2 reprises avec François Bayrou, le Premier ministre, en train d'effectuer les derniers réglages, précise son entourage. Rien n'est moins sûr quant à une annonce du gouvernement demain. En effet, ce lundi marque la journée journée de deuil national pour les victimes du cyclone Chido à Mayotte. L'enquête se poursuit en Allemagne, 2 jours après l'attaque meurtrière à la voiture Bélier qui a fait 5 morts et plus de 200 blessés sur le marché de Noël de Magdebourg. Chaque pierre sera soulevée, a déclaré Nancy Fraeser, la ministre allemande de l'Intérieur. L'objectif maintenant est de dresser le portrait du suspect qui ne correspond à aucun profil connu, a précisé la ministre. Ce médecin saoudien de 50 ans, installé légalement en Allemagne depuis 2006, a été placé en détention provisoire. En Argentine, ce nouveau projet du président Javier Milei a tiré sur le sol argentin des data centers, ces centres de stockage de données dont ont besoin les géants de la tech, notamment pour l'intelligence artificielle générative. Problème, ils sont très énergivores. Alors pour séduire, Javier Milei mise sur le nucléaire. Il représente pour l'instant 9% de l'électricité du pays. Justine Fontaine, le chef d'État argentin, a lancé il y a 2 jours un projet de petits réacteurs qui serait financé par des capitaux américains.
L'Argentine avait été le premier pays d'Amérique latine à opérer une centrale nucléaire sur son sol. Elle veut désormais être la première à construire et faire fonctionner un petit réacteur modulaire dès 2030, comme l'a assuré depuis le palais présidentiel Demian Reidel, conseiller énergie du président argentin.
Il est hautement probable que l'Argentine soit le premier pays à produire et commercialiser ce modèle innovant de réacteur nucléaire.
Dans les faits, la Russie exploite déjà 2 réacteurs modulaires, mais même si de nombreux autres sont en cours de développement à travers le monde, cette technologie n'est pas encore éprouvée à l'échelle industrielle. Le président argentin Javier Milei veut en tout cas utiliser un projet développé en Argentine et le faire financer par des capitaux privés américains. Objectif à terme, attirer les géants de la tech et leurs data centers.
Nos terres inhospitalières en Patagonie, où les températures sont basses, sont attractives pour y installer des serveurs destinés à l'intelligence artificielle. Et le potentiel de développement de l'intelligence artificielle est si important que l'énergie conventionnelle ne suffira pas à répondre à une telle demande.
Un discours accueilli avec amertume par les institutions publiques spécialisées dans le nucléaire en Argentine, car depuis l'arrivée au pouvoir de Javier Milei il y a 1 an, elles ont toutes vu leur budget réduit à peau de chagrin, comme de très nombreux services publics.
L'Argentine, par ailleurs producteur de gaz et pétrole de schiste, devrait ainsi tourner le dos à un projet de centrale nucléaire lancé par son prédécesseur et qui devait être financé par la Chine, un pays que Javier Milei ne porte pas dans son cœur. Visite surprise du Premier ministre slovaque aujourd'hui à Moscou. Entretien en tête-à-tête entre Robert Fico et Vladimir Poutine. La Slovaquie qui a stoppé son aide militaire à l'Ukraine depuis plus 1 an. Les sujets évoqués n'ont pas été communiqués par le Kremlin, mais il pourrait s'agir de l'achat cheminement du gaz russe vers l'Europe, dont Bratislava est très dépendant. Plus tôt dans la journée, Vladimir Poutine a promis encore plus de destruction en Ukraine après une attaque de drones dans le centre de la Russie. Sur le front, l'armée russe revendique la prise de 2 nouveaux villages dans les régions de Kharkiv et Donetsk. La Russie a accéléré sa marche en avant dans l'est de l'Ukraine ces derniers mois. L'application TikTok blacklistée en Albanie. Le réseau social ne sera plus accessible dans le pays à partir de début de l'année 2025. Vincent Souriau, cette décision annoncée ce samedi par le gouvernement albanais exige des mesures fortes pour protéger les mineurs qui représentent la majorité des utilisateurs.
TikTok, c'est le voyou du quartier et nous allons le chasser pendant 1 an. Déclaration martiale du Premier ministre albanais après un fait divers qui a secoué le pays. La mort à la fin du mois de novembre d'un élève de 14 ans poignardé à la suite d'une altercation née sur les réseaux sociaux. Sur TikTok, nous ne voyons que des saletés et de la boue, continue le chef du gouvernement. Pourquoi en aurions-nous besoin ? Le problème ne vient pas de nos enfants, dit-il, mais de l'ensemble de ces plateformes qui les prennent en otage. L'Albanie accompagne cette suspension de mesures de surveillance, présence policière accrue dans les établissements scolaires, sessions de formation au harcèlement numérique et mobilisation des parents. Les autorités albanaises préviennent que TikTok pourra reprendre ses opérations si et seulement si l'entreprise prend des dispositions pour éviter les éclats de violence verbale entre ses utilisateurs.
Vincent Souriau du service international de RFI. Et puis un mot de football avant de refermer votre journal. Avalanche de buts en Angleterre, le leader Liverpool a balayé Tottenham 6-3. Les filets ont tremblé aussi en Espagne sur la pelouse du Real Madrid. Les coéquipiers de Kylian Mbappé l'ont emporté 4-2 sur Séville. RFI, il est presque 21h10 à Paris, 20h10 en temps universel.